Encore bien des occasions et des sujets de louer le Seigneur et puis de non seulement de lui rendre gloire mais aussi de prier, d'intercéder sur des axes bien précis. Dans cette période de fête, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai eu à cœur de faire une petite pause sur la thématique de la prière. On reprendra ça la semaine prochaine. Il y a tellement à partager qu'on a le temps, bien sûr. Mais j'ai vraiment eu à cœur sur ces périodes de fête où je sais que les uns et les autres, on sera en contact avec nos familles, avec nos amis. J'ai vraiment eu à cœur de recentrer davantage nos cœurs et nos pensées sur la personne toute suffisante, sur la prééminence de Jésus dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Et puis, nous avons vu la semaine dernière, ça va être un petit peu une sorte de suite, ce soir, on a vu la semaine dernière que Jésus est réellement le mot final de Dieu à l'humanité. Il est réellement la révélation la plus parfaite, la plus excellente. Il est la révélation ultime de Dieu à l'humanité, à l'être humain. Et puis on a vu que le Seigneur, dans sa souveraineté, dans sa pédagogie, a amené la révélation de façon progressive. Il a d'abord parlé par la création, puis ensuite vient le temps des prophètes, des types, des récits, des symboles, et puis vient aussi Dieu le Fils, Hébreux chapitre 1er, qui est effectivement l'ultime révélation. Et puis ce soir, j'aimerais aller un petit peu encore dans ce sens avec vous en ouvrant l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 31. Et ce qu'on va voir ce soir va nous permettre de considérer encore ce caractère parfaitement suffisant de Jésus. On parle de sa supériorité, on parle de sa suffisance, de sa prééminence, de sa divinité. Jésus, en tout et partout, est plus que suffisant. Personne ne peut, on l'a chanté, il est incomparable. Personne, évidemment, ne peut tenir la comparaison à côté de lui. La Bible est claire à ce sujet. Et puis, dans les messages qu'on a vus la semaine dernière et ce soir, bien, il y a aussi des choses. J'aime le dire ainsi, hein, je veux surtout pas intellectualiser l'Évangile, mais il y a des arguments. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a différentes façons d'approcher les gens. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur, dans sa grâce, il sait prendre chacun sur son propre terrain. Et c'est vrai que l'Évangile parle à nos cœurs, ce que Jésus est, son amour, ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il dit peut profondément nous toucher. C'est l'expérience de sa grâce, de sa puissance dans nos vies. C'est du concret, l'Évangile n'est pas une théorie, loin de là. Mais il y a aussi cet aspect, savoir que Dieu est parfaitement logique. Dieu est parfaitement cohérent. Dieu est extrêmement logique et il y a des arguments, et je vous l'avais dit la semaine dernière, il y avait des moments, l'apôtre Paul, oui c'est par une démonstration d'esprit et de puissance. Je ne suis pas venu à vous, dit Paul, avec les discours persuasifs de la sagesse humaine, je suis venu à vous avec une démonstration d'esprit et de puissance. Mais Paul a su aussi, quand il était à Thessalonique, il a su se poser pendant 3 sabbats. Il est entré dans la synagogue, il a discuté avec les juifs qui étaient là. Puis à ce moment-là, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de démonstration de puissance, bien sûr, il y avait l'esprit. Mais il a simplement démontré par les Écritures que le Christ était bien celui qui devait venir, etc. etc. Donc il y a différentes approches, et je suis un petit peu plus depuis la semaine dernière sur ce genre d'approche, parce qu'il y a des arguments dans la parole qui vont permettre de prendre chacun sur son propre terrain, parce que Dieu se rend accessible à tous, d'une façon ou d'une autre, béni soit son nom. Jean chapitre 3, verset 31, c'est Jean-Baptiste qui parle à des disciples qui sont inquiets de voir que Jésus commence à avoir de plus en plus de succès, de plus en plus de renommée, et de savoir si ceux qui le suivent ont bien fait de le suivre. Et voici ce que déclare Jean-Baptiste au sujet de Jésus. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et c'est ça qui m'intéresse pour ce soir, au-dessus. Il est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. et il parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. J'arrête là la lecture. Ça suffira largement pour alimenter la méditation de ce soir. Cette parole de Jean-Baptiste au sujet de Jésus, on le sait, Jean-Baptiste qui est le précurseur qui a été suscité par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur. Ici, Jean-Baptiste, en quelques mots, va exprimer en réalité toute la pensée biblique au sujet de la prééminence de Jésus. Jésus est réellement prééminent, suffisant, incomparable, exceptionnel. En réalité, quand on y pense, il n'y a même pas d'adjectif, il n'y a même pas de superlatif suffisamment fort pour décrire qui est Jésus et ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire. Dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait, Jésus est réellement incomparable. Et tout dans l'Écriture me parle de sa suffisance et de sa supériorité. Jésus au-dessus de tout, Jésus au-dessus de tous, Jésus au-dessus de tout ce qui existe. En quoi Jésus est-il au-dessus? On a vu que la semaine dernière qu'il était la révélation ultime du Père à l'humanité. En quoi est-il au-dessus? Premièrement, Jésus est au-dessus de tous les autres leaders religieux, de par son origine divine. Jean-Baptiste dit bien, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui vient du ciel. Contrairement à tous les leaders religieux, la divinité de Jésus est clairement établie dans la parole de Dieu. Contrairement à toutes les grandes figures bibliques, les Juifs se revendiquaient, on devrait même dire ils se revendiquent toujours, les Juifs se revendiquent d'Abraham, le père de la foi. Les Juifs se revendiquent de Moïse, la loi. Mais en réalité, toute la Bible proclame que Jésus est au-dessus. Et ce qui faisait que les Juifs ne supportaient pas Jésus, les chefs religieux, le Sanhédrin, ce gouvernement religieux de l'époque ne supportait pas Jésus. Et que maintes fois, ils ont essayé, soit à un moment de le précipiter du haut d'une falaise, soit à un moment de prendre des pierres pour le lapider. Ils ont cherché à l'arrêter. À un autre moment, ils ont envoyé des huissiers pour essayer de le prendre, de le stopper. Jean chapitre 7, on voit à chaque page, quasiment des moments où les chefs religieux sont dans une insupportation spirituelle de Jésus, qui dénonce leur hypocrisie et qui lui apporte un message de vie, de liberté aux gens. Et alors que les Juifs se revendiquent d'Abraham, Jésus leur dit, avant qu'Abraham n'existe, avant même qu'Abraham soit, je suis. Ego emi. Littéralement, Jésus dit, je suis Dieu. Et comme Jésus proclame sans embâge sa divinité, il dit aussi, on le trouve plus tard dans l'Apocalypse de Jean, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Les prophéties, on l'a vu la semaine dernière, les types, les symboles, les récits, tout d'une façon ou d'une autre, nous ramène toujours, c'est incontournable, nous ramène toujours à la personne suffisante et excellente de Jésus, à sa supériorité. Il est au-dessus, ayant été, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, je vous ai expliqué comment fonctionnait tous les schémas, toutes les religions fonctionnent sur les mêmes schémas, et je vous ai montré comment le christianisme fonctionnait sur un schéma totalement différent, et comment Dieu avait pris les religions de ce monde, en réalité, à contre-courant, à contre-pied. Mais la venue de Jésus avait été largement annoncée, et lorsque Jésus arrive, il est simplement par sa personne, par qui il est, par ce qu'il dit, par ce qu'il enseigne, par ce qu'il est, par ce qu'il fait, il est l'accomplissement de 1000 ans de rédaction d'Ancien Testament. Chose qu'aucun leader religieux ne peut revendiquer. Personne ne peut se prévaloir d'avoir été annoncé 1000 ans avant, même plus, parce que si on considère même Adam et Ève, évidemment, là, on pense aux habits de peau, on pense au sacrifice ultime. Bien sûr, dès le commencement, le sacrifice ultime de Jésus avait été annoncé. Le Seigneur, et je ne reviens pas sur ce point, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de la divinité de Jésus la semaine dernière, il est au-dessus de par sa divinité. Ce qui va faire de Jésus aussi qu'il soit au-dessus de tout, au-dessus de tous, ce sont ses attributs. Sa divinité et ensuite ses attributs. Dieu créateur. L'évangile de Jean, ce merveilleux prologue, commence en ces termes. Au commencement, vous connaissez ça, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole, Jean 1, verset 14, et cette parole a été faite chair et à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est réellement un des passages les plus extraordinaires, même si tous les passages bibliques sont extraordinaires, on est d'accord, qui nous parle du Dieu créateur que Jésus était à l'origine de toutes choses. Les cieux racontent, dit le psaume 19, les cieux racontent la gloire de l'Éternel. La création, on l'a vu la semaine dernière, est une preuve de l'existence de Dieu. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est impossible, il n'y a pas un scientifique sérieux, honnête, vrai, qui peut vous dire que tout ce qui existe a été fait parce que c'est le fruit du hasard ou d'une explosion, d'un Big Bang, un jour c'est le Big Bang, un autre jour c'était le boson de Higgs, etc., etc. Il n'y a pas un scientifique sérieux et honnête qui peut se prononcer sur les médias de ce monde et dire tout ça c'est le fruit du hasard. On a vu la semaine dernière que même des grands hommes de ce monde, même des gens comme Voltaire qui étaient tellement anti-Dieu, étaient coincés en regardant la création, et Voltaire disait: cette création m'embarrasse, cette création m'embête, parce que je ne peux pas. Lui, il ne supportait pas l'idée qu'il y ait un Dieu. Mais il dit, je ne peux pas concevoir, parce qu'il était logique, et Dieu est logique. Je ne peux pas concevoir qu'il y ait une horloge, mais qu'il n'y ait pas d'horloger. Et on a vu aussi que, je ne sais plus si je vous l'avais dit ça, je crois que oui, un grand mathématicien du XXe siècle, un mathématicien anglais, James Jeans, qui disait « L'univers que nous voyons, que nous connaissons, a forcément été conçu par un mathématicien. C'est impossible qu'il y ait une mécanique, que tout soit réglé au millimètre près. Le Dieu créateur, c'est une preuve, c'est en cela qu'il est au-dessus, justement par la création. » Et puis, ce que je ne vous avais pas dit, je crois, j'ai repensé à ça cette semaine. Peut-être vous avez lu, vous avez été en contact avec ce livre des frères Bogdanov, des jumeaux Bogdanov, qui avaient une émission scientifique, etc., qui était parfois un petit peu bizarre, certes, surtout sur la fin de leur vie. Ils étaient faits. Visiblement, le chirurgien n'avait pas bu que de l'eau quand il les a opérés à la fin de leur vie. Ça, c'était autre chose. Mais c'était des hommes qui avaient une approche scientifique extrêmement sérieuse. Et ils ont écrit un livre qui s'appelle « La pensée de Dieu ». Et dans ce livre, à un moment, ils disent, puisque beaucoup de scientifiques, dans leur mauvaise foi, continuent de prétendre que c'est le boson de Higgs ou le Big Bang ou qu'une d'une explosion a pu surgir un système aussi beau et coordonné que le nôtre, les frères Bogdanov disaient « La probabilité pour que le monde que nous connaissons, que nous voyons, l'univers que nous connaissons, se soit fait tout seul est de 1 sur 1 milliard de milliards de milliards de milliards. » Et il y avait tellement de zéros qu'à un moment, ils ont donné une image. Ils ont dit, la probabilité que ce monde que nous connaissons se soit fait tout seul, c'est comme si un terrien, un homme était sur Terre. Imaginez un golfeur, il est sur Terre. Il faut qu'il tape sa balle de golf et qu'il la tape tellement bien qu'elle aille jusque sur la planète Mars et qu'elle tombe dans le trou de la planète Mars. Ça, pour donner une image à ceux qui ne sont pas des mathématiciens et qui ne comprennent pas un sur un milliard de milliards de milliards de milliards de possibilités, c'était une image pour dire, voilà la probabilité. Eh bien, si vous arrivez à croire qu'un homme peut envoyer sa balle de golf sur un trou sur Mars, eh bien, vous avez la foi nécessaire pour croire que notre monde s'est fait tout seul. Et ça, ça nous parle beaucoup plus, surtout quand, comme moi, on n'est pas des mathématiciens et que moi, j'ai peur des chiffres. Dieu est créateur, ses attributs, il est au-dessus par sa divinité, au-dessus pardon, par sa puissance créatrice. Là, vous voyez qu'on n'est pas dans des démonstrations de puissance, on est dans des arguments qui sont de la pure logique, mais qui sont incontestables et qui sont vérifiés scientifiquement par des gens extrêmement sérieux. Et il y en a bien d'autres, évidemment. Il est aussi au-dessus, pas par son infinie grandeur, lui qui est créateur de toutes choses. Le roi Salomon l'avait bien compris quand il fait la dédicace du temple, il s'écrie « Ô Dieu, mais même les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Alors à combien plus forte raison cette bâtisse, ce temple que je t'ai construit, cette maison que je t'ai bâtie ?» C'est lors de la dédicace du temple que Salomon prie ainsi. Au travers du prophète Ésaïe, encore c'est pour nous donner une image, parce que c'est encore tellement en dessous de la réalité, le Seigneur dit « Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtiriez-vous ? Quel lieu me pourriez-vous me donner comme demeure ?» En même temps, il a fait sa demeure dans notre cœur. Miracle des miracles, extraordinaire. Et tellement grand, mais il n'est pas seulement grand dans sa création et dans sa puissance créatrice. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est grand aussi dans son amour. Il est grand dans ses attributs. Pas seulement des attributs métaphysiques, omniscience, omniprésence, comme on avait vu, omnipotence, tout pouvoir, toute puissance, mais aussi dans ses attributs moraux, dans sa compassion, sa miséricorde, sa grâce, sa patience. Sa patience. Mais la patience de Dieu. Mais ça ne vous parle pas, parce que je sais qu'avec vous, le Seigneur n'a pas besoin d'être patient. Mais moi, je suis conscient des années de patience de Dieu à mon égard. La patience de Dieu. Mon Dieu, je serais où si tu n'étais pas patient comme ça? Ta fidélité, Seigneur. La fidélité de Dieu. Son amour. Un amour qui, contrairement à l'amour humain, n'est pas versatile. Un amour qui n'est pas changeant, un amour qui ne va pas varier en fonction de vos performances, de vos compétences ou de vos états de service, un amour qui est inconditionnel, un amour qui est pur, un amour parfaitement désintéressé. Le Seigneur m'aime, le Seigneur t'aime de façon totalement désintéressée. Un amour qui ne cherche pas son intérêt, un amour qui ne manipule pas. Dans l'amour humain, il y a des moments, vous savez, on essaye quand même de se placer, il y a quand même, on espère toujours un retour sur investissement. Le Seigneur aime de façon désintéressée. Jésus est mort sur la croix, même pour ceux qui ne l'accepteront jamais. Ils en assumeront les conséquences, mais tout en sachant qu'ils ne l'accepteront jamais, Jésus est quand même mort autant pour eux, il a le même amour pour eux que pour nous qui l'avons accepté. Il a le même amour. Son amour qui ne va jamais m'utiliser. Son amour qui ne va jamais me manipuler. L'amour de Dieu ne me consomme pas. L'amour de Dieu ne me trompe pas. L'amour de Dieu est un amour même pas. Même pas qui donne. Le Seigneur n'a pas tout donné pour nous. Il n'a pas tout donné pour toi. Le Seigneur sait donner lui-même. Et c'est ce qui fait qu'il est au-dessus, que son amour est au-dessus, parce que c'est un amour qui est don de soi. C'est l'amour sacrificiel qui vient jusqu'à nous. Comme je vous l'ai dit dimanche, le Seigneur n'a pas seulement fait une croix sur ses prérogatives divines, sur son trône, sur ses privilèges, sur sa position dans le ciel. Il n'a pas fait seulement une croix sur... Non, il a fait une croix sur lui-même. Il s'est abaissé lui-même, il a renoncé à lui-même, il est descendu lui-même jusqu'à nous pour venir nous chercher. Jésus ne nous a pas tirés vers le ciel, Jésus est descendu jusqu'à nous dans notre condition la plus basse et la plus vile, la plus abjecte, et étant au plus bas avec nous, ensuite il nous a fait monter avec lui et asseoir avec lui dans les sphères célestes. Un amour qui ne donne pas, un amour qui se donne, un amour passionnel, sacrificiel. Cet amour, c'est aussi cette toute-puissance, c'est le cœur, cet amour, c'est le cœur de sa toute-puissance. Vous imaginez des gens qui peut-être ont un certain amour pour vous, peut-être sincère, mais qui ne peuvent rien faire pour vous parce que vos problèmes les dépassent. Il y a des gens qui nous écoutent, qui nous disent « Ah, j'aimerais tellement, mais comprenez, au moins je t'ai écouté, je compatis. Je suis désolé pour toi, mais qu'est-ce qu'on peut dire ? On a le cœur, mais on n'a pas la capacité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On est dépassé. Puis dans certains problèmes, vous avez des gens, ils ont peut-être des possibilités. Mais comme ils n'en ont strictement rien à faire de vous et que vous ne les intéressez pas, ben ils ne vont rien faire. Mais béni soit Dieu, Jésus, lui, il est au-dessus. Au-dessus dans son amour, au-dessus dans sa puissance. Et son amour devient le moteur, le vecteur parfait de sa toute-puissance qui est au service de ceux qui, par la foi, vont entrer dans ses plans et entrer dans ses promesses. Son omnipotence, il est au-dessus par son amour, il est au-dessus par son omnipotence, sa toute-puissance. La Bible, si vous faites bien attention, la Bible, c'est une succession de problèmes, de la première à la dernière page. La Bible, c'est problème sur problème sur problème sur problème. Nous, on aime bien les choses qui baignent, hein, je suis d'accord, hein, c'est, moi aussi, hein, je ne suis pas masochiste. Mais quand vous regardez l'Écriture, de la première à la dernière page, depuis le premier verset jusqu'à la fin de l'Apocalypse, tout est une succession de déserts, de tempêtes, de pression, d'oppression, de trahison, d'injustice, de tellement de difficultés, de problèmes, une succession d'impossibilités, mais à chaque fois, un Dieu qui se présente avec un amour, une grâce et une compassion en réponse à la foi et qui va faire des miracles à la hauteur des impossibilités qui étaient devant nous. C'est comme ça aussi que Dieu se révèle et qu'il montre qu'il est Dieu. Il est au-dessus par sa divinité. Il est au-dessus par ses attributs créateurs, par son amour, par son omnipotence. Jésus est au-dessus par ses paroles et par ses œuvres. Jésus est au-dessus par ses paroles. C'est la conséquence logique, c'est la perfection, l'expression parfaite de ce qu'il est. Celui qui vient de la terre parle comme étant de la terre. Et lorsque Jésus arrive, ce qu'il dit lorsqu'il entre dans son ministère public, même déjà quand, à l'âge de 12 ans, vous relisez Luc 4, quand il est dans le temple, à l'âge de 12 ans que Marie et Joseph, à un moment vous vous souvenez de ce récit, le cherchent, c'est à peu près tout ce qu'on a sur l'enfance de Jésus, et que Marie et Joseph le cherchent, et à ce moment-là, il a 12 ans dans le temple, il est déjà en train d'enseigner. À cette époque, il y a beaucoup de discours religieux, il y a le Sanhédrin, il y a les pharisiens, il y a les scribes qui mettent Jésus leur dira plus tard, vous mettez des fardeaux pesants sur les gens, vous n'êtes même pas capable vous-même de les porter, vous ne pourriez même pas les soulever du petit doigt, tellement vous écrasez les gens avec vos règles, vos rites, vos traditions, vos prières récitées et puis vos tenues vestimentaires, etc., etc. Et tout ça, ça écrase les gens, vous fermez la porte du royaume de Dieu à tous ces malheureux. Et lorsque Jésus parle, ce qui sort de sa bouche est tellement différent. Et quand il a 12 ans, il est dans le temple et il est écrit, Luc chapitre 4, on était tous étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Jésus, alors que nous, on n'a pas toujours les mots, Jésus, il a toujours la bonne parole, au bon moment, pour un cœur, pour une vie, pour un besoin, pour une consolation, pour un encouragement, pour un relèvement, pour une repentance. Et oui, amen. Et si je suis en train de dérailler, que le Seigneur m'interpelle et qu'il me dit, c'est pas, justement parce que je ne veux pas te juger, justement parce que je ne veux pas te condamner un jour, repens-toi, la porte de la grâce est ouverte, fais-le maintenant, repens-toi. Même quand il me dit de me repentir, c'est un flot d'amour qui sort de sa bouche. Et s'il me dit de repentir, c'est pour moi, parce qu'il m'aime, parce qu'il veut que je vive dans la liberté des enfants de Dieu, que je sois débarrassé de toute forme de péché, de lien d'entrave. Repens-toi, même ça c'est une parole de grâce, la repentance est une grâce. Et alors que dans cet univers religieux de l'époque, les chefs religieux, les pharisiens avaient surchargé les gens de fardeaux pesants, de rites, de règles, de traditions, Jésus lui vient avec un message de consolation, de repentance, d'encouragement. Il montre le cœur du Père. Et Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jésus, je sais que les chrétiens n'ont pas toujours bien compris ça. Jésus n'est pas venu pour me donner plus de choses à faire dans la vie. Il n'est pas venu m'imposer des lois, des règles, des rites, des traditions, des habitudes. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. quand j'ai une communion avec le Saint-Esprit, Christ a parfaitement accompli la loi de Dieu pour moi. Et le Saint-Esprit qui vit en moi écrit, grave de son doigt, la loi de Dieu dans mon cœur et la reproduit selon la parole d'Ézéchiel. Il me change, il me transforme, il me sanctifie et il me ramène à l'image suprême, celle de Jésus, l'image que je devais avoir avant la chute. Et le Seigneur ne me donne pas des règles, fais ci, fais pas ça. Pasteur, on a le droit de faire ça. Pasteur, on n'a pas le droit de faire ça. Pasteur, j'ai le droit de mettre un sapin dans ma Noël, un sapin de Noël dans ma maison à Noël. Oh là là, le sujet qui fâche, on ne parle pas de ça. Oh là là, mon Dieu. Le Seigneur n'est pas venu me donner des règles, des rites, des traditions. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Tous étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Jean chapitre 7, quand les huissiers reviennent auprès du Sanhédrin, alors qu'ils avaient eu la mission d'arrêter Jésus, ils sont revenus les mains vides, on leur dit « Mais pourquoi vous n'avez pas emmené Jésus? Pourquoi vous ne nous l'avez pas ramené ?» Et là, ils ont dit « Mais personne n'a jamais parlé comme cet homme. » Ces paroles sont extraordinaires. Jésus, dans ce qu'il dit, est au-dessus. Il est au-dessus dans sa divinité, au-dessus dans sa puissance créatrice, dans son amour. Il est au-dessus dans ses paroles, il est au-dessus dans ses œuvres, dans tous ses miracles. À chaque miracle de Jésus, les miracles de Jésus n'ont jamais été faits. Ce n'était pas un miracle pour un miracle. Derrière les miracles de Jésus, il y a toujours, en réalité, il y a toujours un sens, il y a toujours un enseignement spirituel. Jésus démontre au travers de ses miracles qu'il a autorité. À un moment, Jésus démontre qu'il a autorité sur la maladie. À un autre moment, il a autorité sur les puissances démoniaques. Il a autorité sur les éléments naturels. Il calme la tempête. Jésus a autorité sur les éléments matériels. Il change l'eau en vin. Merci. Il multiplie les pains. Il y a des gens qui disent, pourquoi il lui dit merci? Parce qu'on a chanté, tu as transformé l'eau en vin. Voilà. Pour ceux qui sont arrivés après, je comprends, c'est normal. Jésus démontre qu'il a autorité et il démontre ainsi qu'il est effectivement digne de confiance. Le mot miracle dans la Bible, c'est le mot séméion. Séméion qui signifie littéralement signe. Les miracles que Jésus faisait étaient littéralement des signes et séméion s'employait même à l'époque pour une signature. C'est-à-dire que lorsque Jésus faisait un miracle, c'était une façon d'affirmer, c'était la signature de Dieu sur ce qu'il venait de dire. Et Jésus ainsi donne un signe, une preuve, il atteste qu'il est bien qui il dit être et qu'il est bien digne de foi et digne de confiance, de sorte que les gens ne s'attachent pas au miracle, mais qu'ils se tournent vers celui qui a fait le miracle. « Nul ne fait les miracles que tu fais. » Nicodème, Jean chapitre 3, Nicodème dit à Jésus, « Rabbi, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Lorsque le paralytique, Marc chapitre 2, lorsque Jésus veut démontrer sa divinité et qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, tout le monde s'attend à ce que ce paralytique, vous vous souvenez, c'est les quatre amis qui découvrent le toit et puis qui descendent le paralytique au pied de Jésus. Tout le monde s'attend à ce que Jésus dise « Lève-toi et marche !» Et là, Jésus ne dit pas ça. La première chose qu'il dit à cet homme qui est sur son lit, qui est paralysé devant lui, il dit « Tes péchés sont pardonnés. » Et là, tout le monde s'offusque. Mais afin de prouver qu'effectivement il est bien Dieu, Jésus leur dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre même le pouvoir de pardonner les péchés. » C'est ça le séméion, le signe qui atteste que Jésus est bien qui il dit être. « Pour que vous croyiez que j'ai bien le pouvoir de pardonner les péchés, maintenant je te le dis, prends ton lit, va dans ta maison. » Et c'est le séméion, c'est la signature de Dieu qui atteste que Jésus est bien qui il dit être, savoir qu'il est Dieu. Et puis Jésus est extraordinaire aussi, il est au-dessus par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Sa mort sur la croix, c'est le prix de notre pardon. Même dans sa façon de pardonner, Jésus est extraordinaire. On en a parlé pendant 3 dimanches d'affilée. Les hommes pardonnent, mais ils n'oublient pas. Ça signifie, j'ai quand même toujours un dossier à proximité pour qu'au cas où Il y a un dossier dans le tiroir. On l'a vu, Jésus, lorsqu'il pardonne, lui, il efface. Lui, il nous offre le pardon. Il offre un pardon parfait. Son pardon est total. Lorsqu'on lui demande pardon, son pardon est total. Lorsqu'on lui demande pardon, son pardon est immédiat, pas sous condition dans X ou X temps. Son pardon est définitif. On n'y reviendra plus. Ce qui a été confessé, laissé au pied de la croix, abandonné et pardonné, et c'est ce que le sens du mot pardon, on en a parlé plusieurs fois, totalement, totalement effacé. Il nous offre le pardon. Par la croix, il offre la réconciliation avec Dieu le Père. Par la croix, il offre une restauration totale. Par la croix, il offre le ciel. Il m'ouvre le ciel. Épître aux Hébreux. Nous avons un souverain sacrificateur parfait qui a, Hébreux 4, déchiré les cieux et qui est venu jusqu'à nous. Il nous ouvre le ciel. Jésus est là, il enseigne, parce qu'il est présent sur terre, parce qu'il sait l'œuvre qu'il va accomplir. Jésus dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Dans l'Ancien Testament, le ciel était fermé. Et de temps en temps, il y avait des petites ouvertures, des intrusions divines sur la terre pour saisir un auteur biblique, pour faire un miracle de temps en temps, pour un type, un symbole, un récit, une prophétie, quelque chose. Mais le ciel était fermé et de temps en temps il y avait. Mais quand Jésus est là, à cause de ce qu'il est et à cause de ce qu'il est sur le point de faire, Jésus dit « Désormais vous verrez le ciel ouvert ». Et si nos cœurs sont ouverts, j'aime souvent dire, frères et sœurs, le Seigneur ne va pas seulement nous emmener au ciel. En attendant d'aller au ciel, il met le ciel dans notre cœur. Et si on ne vit pas le ciel dans notre cœur, c'est qu'il y a une dimension de l'évangile qu'on n'a pas compris. Parce qu'en attendant d'aller au ciel, le ciel, il est dans mon cœur. Il m'a ouvert le ciel pour que je vive des richesses, des bénédictions, des ressources du ciel dans mon cœur et dans ma vie pendant tout le temps de mon pèlerinage terrestre. Ça, c'est sa mort sur la croix qui me l'a acquis. Et puis je termine avec ça, sa résurrection évidemment, sa résurrection d'entre les morts. Pas seulement Jésus, c'est pas seulement sa mort évidemment, parce que parler de la croix, c'est merveilleux, il faut parler de la croix parce que c'est la plus haute expression de la sainteté de Dieu, de sa justice, mais aussi de non seulement de sa haine pour le péché, mais de sa passion pour nous, pour les pécheurs. Mais il faut aussi parler de sa résurrection. Il est dit dans les Actes des Apôtres que les apôtres, vous savez, je ne sais pas comment des fois on parle de Jésus ou comment on en témoigne. Mais très souvent, j'ai observé ça, très souvent on parle de Dieu. On parle du Seigneur. Oh le Seigneur, oh Dieu. Mais vous savez, vous pouvez parler de Dieu dans ce monde, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de gens, allez parler de Dieu avec des musulmans, il n'y a aucun problème. J'ai déjà parlé avec des musulmans plus d'une fois. Vous parlez de Dieu, il n'y a aucun problème. Parler de Dieu avec n'importe quelle personne, même des gens athées, ce n'est pas forcément gênant. Parce que Dieu, c'est quand même, on peut mettre un petit peu le nom, on peut lui mettre le visage, la forme. On peut, et très souvent, on se fait avoir, même nous les évangéliques, parce qu'on parle, ben on peut des fois parler, même facilement, mais on parle de Dieu. La Bible est claire, Jésus est Dieu. En dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu. Et si on parle de Jésus, là en face, c'est déjà plus du tout la même chose. Et les apôtres, faites bien attention, vous relisez les Actes des Apôtres, vous regardez le témoignage des apôtres à l'époque de l'Église primitive, les apôtres rendaient témoignage avec force. Les apôtres rendaient avec force témoignage de la résurrection de Jésus. Regardez bien, les apôtres, il n'y a aucun autre nom. Oui, il y a eu un merveilleux miracle. Oui, le boiteux à la porte de la Belle a été guéri par Pierre et Jean, par le Saint-Esprit, pardon, au travers de Pierre. Mais Actes chapitre 3. Mais en réalité, dès que ça s'est fait et que les gens commencent à avoir les yeux sur eux en se disant, ces deux-là, ils vont nous faire des miracles, ils vont guérir tout le village, Pierre leur dit, pourquoi vous avez les yeux sur nous? Sachez que c'est par le nom de Jésus que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Parce qu'il n'y a sous le ciel, merci pour ceux qui disent merci. Pourquoi il dit merci? Parce qu'on l'a chanté. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Vous avez, par vos péchés, crucifié Jésus, le Saint, le Juste. Alors on leur dit avec amour, avec compassion, je suis un peu pressé. Mais quand vous commencez à avoir un discours, pas un discours, un témoignage beaucoup plus précis, quant à la nature de Jésus, et à non seulement à sa mort, mais à sa résurrection, là en face, de toute façon, frères et sœurs, l'évangile, on l'adore ou on le déteste. Le problème, c'est que des tas de gens autour de nous, des gens qui gravitent autour de nous, dans nos églises, dans nos voisinages, dans nos relations, etc., sont indifférents. Et ça, c'est problématique. Parce que Jésus n'a laissé personne indifférent. On l'a adoré ou on l'a détesté. On l'a accueilli comme roi ou on l'a crucifié. Mais jamais Jésus, en réalité, jamais, au grand jamais, Jésus n'a laissé indifférent. Il a toujours créé un schisme. Et Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Le prince de la paix dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. Parce qu'il apporte une façon de vivre, de croire, totalement différente. Et frères et sœurs, ça peut aller loin. Ce n'est pas mon sujet ce soir. Je suis venu apporter l'épée. Je suis venu, vous relirez si je raconte des bêtises ou pas. Vous savez que j'aime bien les choses précises. Vous vérifierez. Je suis venu apporter la division. Entre le père et son fils. Entre l'homme et son fils. Entre la mère et sa belle-mère. Entre la fille et la belle-mère. Je suis venu apporter la division. Parce que Jésus ne peut pas laisser indifférent. On ne peut pas, il n'y a pas de statu quo possible. Jésus est Dieu, il est ego emi, il est le seul chemin, seule vérité, il est la seule vie, il est le seul crucifié, il est le seul sauveur, il est le seul Seigneur, il est le seul capable d'eux, il est le seul ressuscité. Avec Jésus, je suis sauvé ou perdu, il n'y a rien entre deux. Je lui appartiens totalement, je lui ai donné ma vie ou je ne lui appartiens pas. Et Jésus n'a en vérité jamais laisser personne indifférent. On l'adore ou on le déteste. On l'accepte, on lui donne notre vie, on est passionné, on est enflammé, on est... Vaut vraiment que j'arrête. Et ou on le rejette. Mais ce n'est pas possible, il n'y a pas d'entre-deux avec lui. Par sa résurrection d'entre les morts, la résurrection de Jésus, elle dérange ou elle sauve les pécheurs. L'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas... Vous savez que... Et dernière chose, vraiment, mais je sais, il y en a qui vont dire, le pasteur, il fait souvent trois conclusions. Donc comme c'est la troisième, c'est vraiment la dernière. L'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Dès la résurrection de Jésus, le pouvoir politique, le pouvoir étatique romain, les chefs religieux et... Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Les chefs militaires, religieux, militaires, politiques, romains, ont payé les soldats. Tout de suite, vous relirez, tout de suite après la résurrection. Quand on a constaté la disparition du corps de Jésus, ils ont tout de suite payé les soldats, c'est écrit, pour faire des faux témoignages, pour dire que les disciples avaient pris son corps pendant la nuit, etc., et qu'ils l'avaient emmené. La résurrection de Jésus dérange. Mais la résurrection de Jésus, si on y croit, si on l'accepte, si on la reçoit, je vis ensuite avec l'Esprit du ressuscité, je vis dans sa gloire, je vis dans sa présence, je vis dans sa puissance, je vis avec un esprit de capacité, je vis avec un esprit de possibilité, je vis avec un évangile vivant et tellement pratique. Alors Jésus est au-dessus de tout, au-dessus de tous, par sa divinité, par ses attributs, sa nature, par ses paroles, par ses œuvres, par sa mort, par sa résurrection. Oui, Jean-Baptiste avait bien raison de dire, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Et qu'il soit dans nos cœurs toujours au-dessus de tout et de tous, dans nos âmes. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Voilà, on a tellement de sujets de le louer, de le glorifier, de le bénir. On peut le bénir pour cette année passée, pour sa grâce, sa fidélité. Présenter aussi cette année nouvelle. Et puis aussi les occasions de témoignage qui se présentent devant nous. On veut être, par sa grâce, des témoins vivants, des témoins fidèles, des témoins efficaces, dévoués de sa personne, de sa grâce et de sa résurrection. Que son nom soit béni. Seigneur, merci.